La Macronie. Si je vous dis oui, vous êtes satisfait ? Oui à quoi ? Au référendum ? À l'augmentation des salaires et des retraites ? Oui au transport moins cher ? Désolé, mais Macron y a déjà pensé. En 2015, avec les deux lois sur le travail qu'il a fait voter, la loi El Khomri étant une émanation de sa pensée, il a mis en place un certain nombre de choses. Je ne vais pas lister ces atteintes à nos droits, car cela dépasse mes compétences. En revanche, je vais m'arrêter sur un point qui avait fait couler beaucoup d'encre en 2015, l'écart Macron. Et je vais essayer de montrer en quoi sa doctrine est ce qu'on appelle aujourd'hui néolibéral. En 2015, la mise en place d'écart Macron nous a été vendue comme un moyen de relier des villes qui ne sont plus desservies ou mal desservies par la SNCF. D'écart flambant neuf, Flixbus, Ouibus, Eurolines, Elisa Easyline, etc. prennent la route, surtout les autoroutes, et vont de la province vers Paris ou l'inverse. Mais si de Limoges vous voulez aller au Puy-en-Velay, si de Colmar vous voulez à Clermont-Ferrand, si de Bayonne vous voulez aller à Digne ou Grenoble, il n'y a pas une seule compagnie de bus. Voilà la grande innovation de Macron. En France, on avait déjà la SNCF pour réaliser ses parcours qui pouvaient prendre 24 heures. Ce n'était pas très satisfaisant. Aujourd'hui, c'est pareil ou pire. Donc, les compagnies de bus ont azimuté leurs itinéraires entre Paris et la province et retour. Là encore, la SNCF faisait ça très bien. Alors, arrêtons-nous sur une compagnie mise en l'honneur par une série de rapports, Ouibus. Ouibus est une filiale de la SNCF et a perdu beaucoup d'argent en 2016, 2017 et 2018. Elle est en voie d'être rachetée par Blablacar. Les pertes se montent à environ 40 millions d'euros par an. Et que disent les chiffres ? Ces bus ont pris des clients à la SNCF, puis ils les ont perdus au profit de Blablacar. Premier constat, on nous dit que cela va redonner des potentialités du transport en commun, augmenter le nombre de clients, éviter à la SNCF d'investir des sommes importantes pour réactiver les petites lignes, blabla, blabla, blabla. On enlève des clients à la SNCF et on les reverse à Blablacar, qui est une société privée. C'est un mensonge complet par rapport à ce qui a été annoncé. Deuxième constat, il y a un manque à gagner pour l'État. L'écart Macron, dont Ouibus, emprunte des autoroutes au tarif en vigueur. Une simple autorisation pour valider les trajets et c'est parti. La taxe à l'essieu pour l'emprunt d'autoroute est si faible par rapport à la taxe perçue sur le rail pour ces mêmes trajets que l'État perd environ 25 millions d'euros par an. Troisième constat, Ouibus est déficitaire mais continue à rouler. Donc, quelqu'un paye le gasoil et les chauffeurs. Ce sont des subventions. Je n'en connais pas le détail, mais elles sont votées à Bruxelles et à Paris. Sinon, il y a belle lurette que les banquiers auraient stoppé l'affaire. Rappelons que pour avoir une politique compétitive, pour améliorer ses infrastructures, la SNCF aurait besoin de plus de financement. Mais si les subventions vont aux compagnies de bus Macron, elles ne peuvent pas tomber en même temps dans l'escarcelle de la SNCF. Cette loi, présentée comme un progrès pour faciliter les déplacements des personnes qui ont besoin de se déplacer, est un leurre. Son véritable objectif est de créer un paravent derrière lequel le gouvernement et les dirigeants font semblant de prendre des initiatives pour améliorer les transports, alors qu'en fait, ils ne veulent plus engager de travaux sur les infrastructures existantes. En d'autres termes, ils veulent abandonner les petites lignes. D'ailleurs, en 2018, une loi a réformé la SNCF, pour l'ouvrir à la concurrence. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de concurrence pour aller de Limoges au Puy-en-Velay, ni de Digne à Narbonne. Mais pour aller de Barcelone à Amsterdam ou Londres, vous aurez le choix. Donc, le sort des petites lignes est scellé. Et Ouibus, qui est, souvenez-vous, une émanation de la SNCF, propose, maintenant, des voyages en TGV beaucoup moins chers. Des voyages en TGV, comme avec les bus, pour aller dans toutes les grandes villes d'Europe. Quatrième constat, il est politique. Qu'est-ce que le néolibéralisme ? C'est tout mettre en œuvre pour que l'économique régule les échanges entre entités, nations, entreprises et particuliers, c'est-à-dire pour que les États s'effacent derrière la volonté des puissances économiques. Dans l'exemple que j'ai pris, le transport en bus et train, il y a de l'argent à gagner à condition de fermer, et je pèse ce mot, à condition de fermer toutes les gares rurales et d'abandonner les petites lignes SNCF. Ainsi, on pourra faire face aux besoins des grandes lignes pour servir les entreprises et les touristes lors des grands départs en vacances. Le néolibéralisme, c'est aussi copier une recette venue d'ailleurs. Et cet ailleurs, ce sont les États-Unis qui ont réformé leur transport avec l'avènement de l'aviation dans les années 1950 et 1960. Ce qui est peut-être pertinent à l'échelle d'un continent comme les États-Unis ne l'est pas forcément à l'échelle de l'Europe. Rappelons que les États-Unis sont le pays le plus endetté au monde. Les gens s'y déplacent surtout en voiture et en avion, le bus restant le moyen de transport exclusif pour les plus pauvres. Sauf dans un périmètre bien circonscrit, la côte Est, qui ressemble par la densité de sa population et son activité à l'Europe de l'Ouest. Dans ce périmètre, ce sont surtout les trains, les trams, les métros qui transportent les gens d'un endroit à un autre. Donc, cette petite entité du grand pays contredit les vérités de l'ultralibéralisme en vigueur. Mais quand on réforme, on ne le fait pas par pragmatisme. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'arsenal législatif nouveau. Non, on le fait par idéologie. Je sais, c'est un mot disparu du vocabulaire, mais il dit bien ce qu'il est. Une vision du monde ordonnée selon un certain point de vue. Une idée. Il est d'autant plus redoutable, ce mot « idéologie », qu'il est masqué par le mot « pragmatisme ». Plus un homme politique vous dit qu'il est pragmatique, plus il est idéologue. Parfois, il ne s'en rend même plus compte. Ce qui est terrible avec ces Janus néolibéraux, Janus est un dieu de l'Antiquité qui avait deux têtes, une pour l'extérieur, une pour l'intérieur. Donc, ce qui est terrible avec ces Janus néolibéraux, c'est qu'ils sont incapables de voir les résultats de leur politique idéologique, donc d'en modifier les effets. Ils sont pragmatiques, mais pas surtout. Les deux réformes mises en place par Macron en 2015 et 2018 sont un raccourci de sa politique et de son idéologie. On met de l'argent dans le transport, d'accord, mais pas pour satisfaire les besoins des zones rurales, pas pour satisfaire les besoins des citoyens, pour augmenter la circulation entre les métropoles, donc satisfaire les besoins des hommes d'affaires, des élites, des touristes, etc. Une réforme se fait toujours de la même manière. D'abord un constat, ça ne fonctionne plus. Le pragmatisme se met en action, il faut faire quelque chose. Tout le monde s'accorde là-dessus. Vous avez une ligne SNCF coupée, vous ne pouvez qu'être d'accord pour faire quelque chose. Les experts se mettent au travail. La politique prend la main par un plan de communication bourré de promesses qu'on peut appeler un tissu de mensonges. Mais ce plan séduit. Ah, les vertus de la séduction. On expérimente. Waouh, ça marche! On généralise. Résultat? On reconfigure la lutte des classes, les modernes qui vont de l'avant contre les ringards grincheux. Il y a autant de dysfonctionnements qu'avant, sinon plus. On a réduit les gains et parfois les dépenses de l'État en refilant l'organisation du transport à des sociétés privées. Et surtout, ces sociétés privées vont recevoir de plus en plus de subventions et de facilités. Vous devinez maintenant à qui profite le pragmatisme. Il y a un bénéfice linguistique annexe. On fait reculer l'expression « service public ». C'est-à-dire, tout le monde est à la même ancienne, à enseigne, et le service rendu partout identique. Or, avec les réformes Macron dans le transport, il y a un service pour les usagers, mais ce n'est plus un service public. Et le public, notamment, provincial, qui attendait un meilleur service et priait de s'en passer. On investit là où ça rapporte, on ferme là où ça perd de l'argent. Sinon, on met à contribution les collectivités locales, car les subventions sont affectées ailleurs, là où ça peut rapporter. Donc on puise sur un impôt qui n'était pas destiné à ça. Ce système rend les gens autonomes. Là où ils avaient besoin d'un amendement pour se déplacer, ils doivent s'organiser autrement qu'au voiturage, parfois, sinon ils s'achètent une voiture. C'est bon pour la planète, pardon, pour le PIB. Dans les années 80, le néolibéralisme, c'était appauvrir les pauvres des pays riches pour enrichir les riches des pays pauvres. On y est. Aujourd'hui, le libéralisme, c'est chaque catégorie sociale, chaque entité géographique, économique, se dépatouille avec ses problèmes. C'est-à-dire, les ruraux prennent en charge les difficultés liées à la ruralité. C'est le département qui paye la généralisation des accès à Internet, qui finance les transports, les ex-routes nationales, etc. Les urbains pauvres prennent en charge les problèmes des plus démunis, les SDF, les immigrés. Les urbains des classes moyennes s'organisent pour avoir le plus d'avantages possible pour les transports, l'habitat, la scolarité, etc. Et partout, les riches font de l'optimisation fiscale. Mais ne demandez surtout pas à un néolibéral de mettre en œuvre une politique de redistribution de quelque richesse que ce soit. C'est un crime de lèse-majesté. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine humeur. Une bonne humeur, bien sûr.